Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. Septième émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. L'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre sur le blog, c'est emission-femmeslibres.blogspot.com et n'hésitez pas à aller donc sur notre blog pour réécouter les émissions et avoir le programme. Pensez aussi à nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Alors le programme de ce soir, d'abord la rubrique féminicide par compagnon ou ex, ensuite l'opus poétique Les 4 et une saison de Harwa Ben Dia, publié aux éditions Le Chant du Cygne en 2024, et ensuite nous aurons un invité, Nicolas Lamblé, pour un dénatalisme libertaire, ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste, qui est sorti en 2024 aux éditions du Monde Libertaire. Et nous terminerons par des informations, des communiqués, des rendez-vous. Mais nous allons commencer par les féminicides par compagnon ou ex. Bien sûr, c'est toujours compliqué de calculer le nombre de féminicides. Je vais vous donner deux nombres, mais on écoute d'abord le générique.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
en
domestique.
En Tunisie, une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son
père. Jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de.
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
8, c'est le chiffre censé dans les médias sur Internet. Sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France pour l'année 2025. Chiffre à minima. De nombreuses affaires sont non comptabilisées, sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Donc, 15, c'est le chiffre prenant en compte tous les féminicides, quelle que soit la circonstance. Le dernier féminicide en date, samedi 8 février à Borgo, en Haute-Corse, une femme quinquagénaire a été retrouvée morte à son domicile. Ce sont les voisins de la victime qui ont alerté les forces de l'ordre. Son neveu, placé en garde à vue pour le chef d'homicide volontaire, aurait utilisé un fusil. Nous les citons, nous ne les oublierons pas. Et pour joindre le site Féminicide par compagnon ou ex, c'est www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
Quatre et une saison. Alors, je reprends. Bonsoir. Pour cet opus poétique, nous recevons Arloa Bendia, qui a publié Les Quatre et une saison, un recueil donc édité aux éditions du Cygne. Il s'agit de son quatrième recueil. Et elle va nous en dire tout d'abord quelques mots avant que je ne lise quelques extraits. Arloa Bendia, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour. Merci de votre invitation.
Allô, vous m'entendez ?
Oui, oui.
Est-ce que vous m'entendez, Arloa ?
Oui, je vous entends très bien.
Ah, d'accord. Parce que moi, je ne vous entendais pas.
Alors, bah, là, Arloa. C'est bon.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du recueil Les 4 et une saison ?
Oui, bien sûr. Alors tout d'abord,
composé,
merci.
Alors, je précise quand même, qui est composé de 5 chapitres qui correspondent aux 4 saisons, mais il y en a une en plus.
Tout à fait. C'est la 5e saison que j'ai voulu distinguer pas dans le titre en la mettant à part. J'aurais pu l'intituler Les 5 saisons, mais j'ai préféré dire Les 4 et une saison. Pour que cette 5e saison soit vraiment mise en exergue, parce que c'est la plus importante à mes yeux.
Qui donc, est celle de la Renaissance, hein, si j'ai bien...
Voilà, tout à fait, parce qu'on va reboucler sur le printemps, donc le printemps qui correspond à la naissance. L'été, il est associé à l'existence. Ensuite, on a l'automne correspondant à la nostalgie. Et on finit par l'hiver, associée au couchant, au crépuscule de l'âge. En fait, mes saisons, ce sont des métaphores de la vie humaine. Mais je n'ai pas voulu finir par une note froide, donc qui est celle de l'hiver, d'où le rebouclage sur le printemps. Et ma cinquième saison, c'est la renaissance, donc c'est l'éternel retour pour illustrer le merveilleux cycle de la vie.
Alors, je vais en lire un premier, mais j'émaillerai de quelques-unes des lectures.
D'accord.
Primavera. Le chant des hirondelles. Le bel azur du ciel. Les champs en fleurs, le soleil et les senteurs, les tables iraniennes, ornées de haftsin, les terres indiennes, célébrant Holi, par feu et couleur, le monde en poésie, comme une toile de Botticelli, nouveaux habits, riz glutineux, raviolis, étrennes et vœux, dans l'empire du milieu. Le printemps est là. Quelle joie. Grazie la vita. Benvenuta primavera.
Merci.
Alors voilà, je pense que ça fait un petit écho à ce que vous avez évoqué.
Oui.
Et puis alors, j'ai aussi remarqué que vous aimez... On sent que voilà, vous avez une petite, que vous aimez beaucoup la philosophie.
Oui, tout à fait.
Alors, je vais lire celui de Paris de Pascal, et comme ça, peut-être si jamais vous voulez nous en dire quelques mots. Alors, c'est
oui,
le titre
de
Paris de Pascal. Mais de quel Paris me parles-tu? Comme Dieu, je ne joue pas au dé. Aucune transigeance. Même pas par prudence, sur ma liberté de conscience. Je préfère perdre ce pari existentiel que de corrompre mon intégrité intellectuelle. Ce jeu soi-disant divin en vaut-il la chandelle? Si au-delà il y a, ton Dieu est-il vraiment sérieux de me destiner aux flammes infernales juste parce que je n'ai pas cru en lui et à son petit jeu? Et puis tant mieux. J'irai retrouver en enfer tous les libres penseurs qui me sont chers. Nietzsche, Spinoza, Rimbaud et Baudelaire. Cet avant-dernier goûterait alors à sa saison en enfer. Je comprends que tu veuilles que dans l'au-delà, nous soyons réunis au paradis, comme nous l'étions sur terre autrefois. Cependant, je refuse de croire à cette illusion. Je préfère m'imaginer me réincarner en papillon. Cela te tenterait-il d'être un lépidoptère comme moi? Si Dieu existe réellement tel que tu le conçois, j'espère qu'il sera assez clément pour ne pas nous séparer. Sinon, il aura affaire à moi. Je t'aime tellement, tu sais, par-delà la vie et où que l'on soit. Alors, c'est Pascal que vous aimez?
Oui, c'est Blaise Pascal, Paris de Pascal. Je parle de plein de philosophes dans ce poème, Nietzsche, etc., que j'aimerais, entre guillemets, rejoindre en enfer. Non, c'est pas vraiment Blaise Pascal qui m'intéresse, mais la philosophie spontanée de Papa. Après, oui, mon père. Ce poème-là m'a été inspiré après une discussion que j'ai eue avec mon père, qui philosophait d'une manière spontanée, sans savoir qu'il raisonnait comme Pascal. Donc, ce que me disait papa, c'est que c'était plus prudent de croire en Dieu que de ne pas croire.
Ah oui, ok. D'accord.
On perd rien à croire en Dieu, Et comme ça, ben, on s'assure, entre guillemets, une place au paradis, comme raisonnait Blaise Pascal. Et si Dieu n'existe pas, ben, on n'aura rien perdu de toute façon. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça, d'où mes vers, je n'aime pas transiger sur ma liberté de conscience, etc. Donc voilà l'histoire derrière ce poème.
D'accord. De toute façon, ça, je l'ai senti dans un autre texte que je lirai tout à l'heure. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est Radio Libertaire. Alors, la Radio Libertaire, c'est ni Dieu, ni maître, et ni quelque chose d'autre, mais...
Ni publicité.
Voilà, me dit l'animatrice en titre, en chef.
Mais par contre, l'information est tout à fait de bon aloi. Et merci de nous parler de votre livre.
Alors, je vais en lire un autre. Et après, j'en lirai un qui m'a beaucoup touchée sur la... qui évoque quelque part la liberté de la femme. Mais je vais le lire tout à l'heure.
D'accord.
Là, alors là, celui-ci, on reste dans l'esprit un petit peu de la philosophie, parce que là, il y a question de Thomas Hobbes. Alors, Thomas Hobbes...
Gaudium est.
Exactement. Scientia, oui, gaudium est. Thomas Hobbes dit « Le savoir, c'est le pouvoir. » D'autres le pensèrent comme lui, en employant d'autres paroles, comme Nicolas Machiavel, Pic de la Mirandole, ou Gargantua, Pantagruel. Et moi, je te dis, le savoir, c'est avant tout le bonheur. Le savoir est le propre de l'homme. Le savoir est la nourriture de l'âme. Il n'y a rien de tel que la joie intellectuelle. Cette joie est le seul héritage qui se multiplie quand on le partage. C'est le bouclier qui te protège des idées reçues, de la lassitude, de la servitude et des idées obscures. Enrichis ta culture, imprègne-toi d'histoire, de sciences humaines et dures, et tu verras ton essence s'imbiber de sagesse. Tu exalteras ta volonté de puissance. Tu verras ton être s'emplir de lumière. Scienta Gaudium est. Alors, en latin, voilà. Ça signifie le savoir et la joie.
Oui, vous l'avez bien remarqué, j'aime bien introduire de temps en temps des expressions latines.
Oui, exactement.
Oui.
Et alors,
aussi
Thomas...
bien pour...
Pardon, oui.
Non, j'allais dire aussi bien pour m'amuser, pour me faire plaisir, que pour titiller la curiosité chez le lecteur. Pour qu'il aille voir ce que ça signifie, ou des fois je mets en bas de page, en note de bas de page, comme ici.
Et alors, je me demandais si vous aviez lu, moi je l'ai lu en diagonale, hein, j'ai pas lu en entier, Le Léviathan de Thomas Hobbes.
Pareil, j'ai lu quelques extraits, j'ai pas lu en entier.
Oui, parce qu'il c'est un assez gros volume.
Oui.
Et Le Léviathan, en fait... c'est l'État qui est représenté comme étant un monstre, quelque chose comme ça, si ma mémoire...
Tout à fait.
Et ben...
Est-ce que vous avez vu le clin d'œil à... Vous avez deviné le clin d'œil à Nietzsche, ici.
Dans celui-ci ?
Oui.
Ah, avec le gai savoir, peut-être.
Ah oui. Outre cela, il y a encore un deuxième clin d'œil. C'est la volonté de puissance. Tu exalteras ta volonté de puissance.
Ah, alors ça, ce serait en lien avec Ainsi parlait Zarathoustra.
Oui.
Ah, ok. Ah ben non, celui-là, je ne l'avais pas vu. Alors, est-ce que j'en lis un autre ?
Je vous en prie.
Alors, sur celui-ci, si vous voulez, vous m'en direz quelques mots après.
D'accord.
Alors, il s'intitule Dialogue de sourds. Elle me dit, d'un air méprisant, pour qui tu te prends ? Tu seras seule finalement. Quel prince charmant ! Ta beauté finira par se faner, avant qu'il ne soit trop tard. Tu ferais mieux de te caser. Et puis, Tu sais ce qu'on dit chez nous. Ne restent seuls que les méchants et les hiboux. Inutiles sont tes lectures d'auteurs fous. Cesse tes pratiques excentriques. Elles te dévient du droit chemin. Et ne te mèneront qu'à la perte, enfin. Espères-tu vraiment épouser un bon musulman qui supporterait de voir dans sa propre maison sa femme sans voile, priant? Reviens donc à la raison. Crois-tu qu'il te laisserait également côtoyer athées, mécréants et hérétiques, danser avec un autre sur un air romantique, chanter et t'enivrer de musique? De me taire, j'avais grande envie. Mais quand même, je lui dis, mieux vaut être seul que mal accompagné. Comme ils sont hypocrites et pathétiques, ces musulmans qui préfèrent épouser des mécréantes étrangères que des musulmanes excentriques. Sans doute suis-je une espèce de sorcière, bonne pour le bûcher, condamnable pour mes idées. Je suis en quête de beauté, beauté de l'âme, beauté de l'esprit, avant toute chose, passant en priorité. Je ne trouve que laideur et médiocrité. Hélas, que vanité et vacuité. Jamais je ne renoncerai à ma liberté de croire et de penser. Jamais je ne commettrai le crime de me voiler. N'en déplaise à monsieur, n'en déplaise aux cieux. Qu'on sache ce qu'est un mouflon. Un mouton des montagnes, beau comme une gazelle, il paraît, docile comme un mouton. Mais il est sauvage comme un lion. Jamais on ne le domptera. Jamais pour l'Aïd on ne l'égorgera. Un jour il trouvera un brave mouflon qui l'aimera et le comprendra. Et pour l'histoire du droit chemin, j'avais envie de lui citer Fred Vargas. Je rentre dans le droit chemin qui, comme tu le sais, n'existe pas et qui par ailleurs n'est pas droit. Mais je respectais la majesté de ce silence grand et roi. Non, je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles.
Merci. Encore un clin d'œil à Nietzsche à la fin.
Ah, alors, où ça?
Ben c'est Zarathustra qui dit, je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles.
Ah oui, d'accord. Ah bah oui, oui. Bah alors là je l'avais oublié, moi, cette réplique.
Nietzsche, c'est mon philosophe préféré.
Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de ce dialogue de sourds? Ah oui, alors je tiens à préciser, parce que je l'ai lu sur la page, Arlois, en arabe, signifie mouflon. Oui. D'où effectivement vous êtes autorisé à parler justement du mouflon.
Oui. Oui, je l'ai mis en note de bas de page pour les lecteurs non arabophones, pour qu'ils sachent la signification de mon prénom. C'est pour ça que je parle du mouflon dans ce poème. Qu'on sache ce qu'est un mouflon, un mouton des montagnes, beau comme une gazelle, qui paraît docile comme un mouton, mais il est sauvage comme un lion.
Alors ça, c'est une réalité. Il est vraiment sauvage comme un lion, le mouflon. C'est peut-être un petit peu vous. Alors celui-ci...
En tout cas, par ma plume, je n'hésite pas à critiquer de manière acerbe toute idéologie que j'estime liberticide, voilà, et aliénante.
Oui, tout à fait, complètement. Tant que finalement les pratiques, enfin moi je me permets de le dire, même si je suis sur Radio Libertaire, mais tant que les pratiques restent de l'ordre d'une espèce d'intimité, on peut croire en ce qu'on veut en réalité, mais sans après que ça déborde et que ça devienne une espèce d'étau oppressif où là tout à coup effectivement c'est la liste des interdits à n'en plus finir.
Oui. Tout à fait. Et puis que ça reste dans l'ordre du privé.
Exactement. Ce que je
comme
disais.
Henri Michaud disait ceux qui ont chassé leurs démons nous importunent avec leurs anges.
Oui, d'une certaine façon. Alors, je vais en lire un autre. Ah oui, alors, non. Peut-être que je vais préciser aussi que votre recueil, il a été primé par la Société des Poètes Français. C'est bien celui-ci, donc. Hein.
Oui, récemment, oui. J'ai été très contente de voir mon nom comme lauréate du prix d'honneur décerné par la Société des poètes français. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 28 mars à Paris.
D'accord. Alors sinon, en général, quand vous écrivez plutôt chez vous, à l'extérieur?
Il n'y a pas vraiment de règle. En fait, quand l'inspiration s'invite, il faut que j'y réponde tout de suite parce qu'après, je...
Vous perdez le fil.
Je perds, oui. Donc, je note directement ce qui me vient à l'esprit. Ça m'arrive dans le métro, par exemple. Mais la plupart du temps, quand je suis tranquille chez moi le soir, au calme ou en écoutant de la musique...
Et ça peut être un peu n'importe où, pas nécessairement dans un pays fixe.
Ah non, du tout. Que ce soit en voyage ou chez moi, oui, ça m'arrive. D'ailleurs, ça m'est arrivé le mois dernier à Munich. J'ai écrit un nouveau poème. Et la revue littéraire Oyapok l'a publiée.
Ah, mais je ne connaissais pas cette revue. Oyapok.
Oui, Oyapok, Entre deux rives, c'est une revue en Amérique latine, et dirigée par la poète Alexandra Crété. Elle est française, résidant à Cayenne, en Guadeloupe. Oui.
Ah oui, on m'en a parlé d'Alexandra. J'ai l'un de ses recueils, d'ailleurs.
Oui.
Alors, qu'est-ce que je vais lire ? Patience. On aura fini dans quelques instants. Donc, j'en lis un autre. Ensuite, Arwa, si vous avez envie d'en lire un, vous.
D'accord. Merci. Oui, je lirai.
Alors, j'en lis un et vous en lisez un. Et on finira le petit opus, enfin le grand opus. Patience. Il faut donner du temps aux fleurs pour s'épanouir. Il faut donner du temps aux fruits pour mourir. Il faut donner du temps aux poètes pour le devenir. Il faut donner du temps aux amants pour s'unir. Il faut donner du temps aux blessures pour guérir. Il faut donner du temps à la vie pour sourire. Il faut donner du temps au temps pour advenir. Il faut donner du temps et savoir prendre son temps. Rome ne s'est pas faite en un jour. Dieu a créé le monde en 6 jours. Chaque chose en son temps, et chaque temps à son tour. Ne précipitons pas les événements, et soyons suffisamment patients pour voir naître le printemps.
Ouais, merci.
Je vous en prie, à vous, Ardois.
D'accord. Alors, je vais lire Pour la Vida. Pour la Vida, c'est en quelque sorte la devise des costariciens, ou costaricains. Et c'est pour moi un poème prémonitoire en quelque sorte, parce que je l'ai écrit sans savoir, bien avant d'aller au Costa Rica, et sans savoir que j'y allais. Donc c'était un peu, je sais pas, c'est comme si c'était prémonitoire.
Une sorte de synchronicité un peu.
Oui. Donc, pour la vida, ils le disent, même pour, ça peut vouloir dire bonjour, comment ça va, la vie est belle, mais en espagnol, pour la vida, c'est la vie pure, pure vie. Donc, pour la vida, je perds mes mots, mais peu mon chaud. Pour la vida, dans les vertiges de mon âme, je contemple les vestiges de mes poèmes. Je tâche de m'inspirer de mes anciennes paroles. La verve me fait défaut. J'emplis mes poumons et je respire un air nouveau. Pour la vida. Dans ma velléité de t'aimer comme les jours d'antan, je m'efforce de me rappeler ton prénom. Mais il s'effrite au loin et se noie dans l'océan. Pour la vida. Je cueille l'écume à la surface maritime. Je crois qu'elle est la relique de nos confessions intimes. Elle me bouleverse et pénètre mon être. Avec elle, je me sens en osmose. Quand viendra ma métamorphose? Je voudrais me transformer en un morpho-prophète qui aurait le don de l'ubiquité et viendrait susurrer à qui veut l'entendre la poésie et l'arôme de la divinité. Ou en d'autres termes, pour la vida, il vive à la vida.
Eh ben, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arloa Bendia, pour ces vers libres empreints de philosophie. Alors, je rappelle le titre du recueil, Les 4 et une saisons, édité aux éditions du Cygne. Merci à vous, Arloa.
Merci beaucoup, Malika.
À bientôt. Au revoir.
Nous venons de terminer avec l'opus poétique « Les 4 et une saisons ». On rappelle que c'est aux éditions du Cygne. Voilà. Et nous allons maintenant écouter la grève des mères pour introduire le livre de Nicolas Lamblet pour un dénatalisme libertaire.
Nicolas Lamblet. Bonsoir, bonsoir.
Bon, et ben merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Libertaire dans l'émission Femmes Libres. Est-ce que je peux te tutoyer ? Oui ?
Bien sûr, pas de souci.
Voilà, bon, ben, ça sera plus simple.
Voilà.
Et bien, pour ton ouvrage paru aux éditions du Monde Libertaire, pour un dénatalisme libertaire et avec un sous-titre « Ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste ». Alors, à l'heure des discours militaristes et natalistes de Macron, tels que le réarmement démographique, je ne sais pas si tu sais, mais les féministes, on a hurlé quand on a entendu parler du réarmement démographique. Bon, on a l'impression que ton livre arrive au bon moment pour faire réfléchir quant à vouloir des enfants ou non, hein, dans une perspective anticapitaliste. Alors, ce n'est pas nouveau, cette thématique-là, je te le dis, parce que moi, il y a 45 ans, quand j'ai pensé faire un enfant, j'étais déjà en train de penser à ça, et d'ailleurs, j'en ai eu qu'un seul. Voilà. Bon. En fait, tu nous dis qu'il faut sortir du schéma traditionnel amour, mariage, reproduction.
Oui.
Voilà. Et c'est vrai que dans les années 70, nous avons, alors surtout les femmes, je dois dire, hein, mais on a été délivrés de cette relation de faire l'amour avec la peur toujours d'engendrer. Auparavant, on nous imposait cela. Et puis, grâce à la pilule, grâce à l'avortement, on a pu évidemment maîtriser notre fécondité. Cette idée, hein, de faire l'amour uniquement pour engendrer, hein, eh bien, c'était faire l'amour, interdiction de faire l'amour avant le mariage, bien sûr, et de faire l'amour avec n'importe qui, je pourrais dire, non ?
Oui, oui, oui. Ben, en fait, moi, ce que j'essaie aussi de retracer, en fait, dans ce livre, en fait, donc pour un dénatalisme libertaire, bon, déjà, c'est d'avoir vraiment une réflexion, en fait, sur le fait de pas vouloir d'enfants, mais aussi d'essayer de politiser, en fait, cette réflexion. Mmh. C'est-à-dire que souvent il y a beaucoup de livres déjà qui sont parus, quelques-uns en tout cas qui sont parus sur le fait de pas avoir d'enfants, mais souvent c'était plus des réflexions assez individuelles. Et là, le but c'est vraiment d'essayer de mettre ça dans une perspective beaucoup plus structurelle par rapport au monde dans lequel on vit. Et effectivement, comme tu l'as dit, on le voit, hein, dans le monde, le développement de gouvernements, enfin la montée de gouvernements autoritaires, fascistes, et avec une idéologie nataliste, en fait, qui a toujours été là, mais là qui revient encore davantage en force. Dans tous les pays. Et ce que j'essaie de montrer aussi, ben, c'est que cette idéologie nataliste, elle a toujours été présente, quels que soient en fait les États. Alors bien sûr, bon, dans l'État capitaliste, même au-delà, si on remonte même dans l'Antiquité, il y a toujours eu une pression exercée, alors sur les femmes principalement, bien sûr. Pour pousser en fait à avoir des enfants. Alors à l'époque, ça passait par des impôts, des taxes, une stigmatisation des personnes célibataires, des personnes sans enfants.
Oui, oui, j'ai découvert ça dans ton livre. Ça, je ne le savais pas. Hein. C'est dans la partie État et religion. Hein,
oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Tu vas donc jusqu'au 5e siècle. Quand on appliquait une amende pour les célibataires et exactement. Une taxe pour les orphelins, je trouve ça incroyable, incroyable qu'on allait, que toi tu ailles jusqu'au 5e siècle, mais que il y avait y compris des amendes et des taxes.
Ouais, complètement. Et donc ça, c'est voilà, on va retrouver ça dans l'État au niveau de l'Antiquité, mais aussi sous l'État féodal jusqu'à aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que finalement, on peut dire que la société change au niveau de la forme, mais le fond reste le même. Et ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que tout État, de toute façon... Alors, j'avoue que par rapport à mon titre pour un dénatalisme libertaire, je m'étais inspiré un peu du titre aussi de Jean-Pierre Tertré, qui avait écrit pour une décroissance libertaire.
Oui, 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 bien sûr.
Et je trouve qu'il y a un parallèle à faire justement entre l'idéologie de croissance, qu'il y a donc dans le système capitaliste, hein, qui est vraiment une véritable religion. Il faut produire, faut produire, faut produire. Et Jean-Pierre Tertré montrait justement que si on est vraiment dans la décroissance, faut remettre en cause en fait l'idée de l'État. Parce que l'État est l'entité principale, en fait, qui génère, justement, génératrice de croissance dans la société, puisque l'État, en fait, va se durcir et va tenir sa puissance en ponctionnant, justement, par l'intermédiaire d'impôts, de taxes, la production et le travail. Et par rapport au dénatalisme, ben, je trouve, enfin, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que l'entité qui va générer l'idéologie nataliste, c'est clairement l'État. Et on l'a vu encore il y a quelques mois avec, comme tu disais tout à l'heure, Macron qui va parler de réarmement démographique. Et puis l'État qui va diffuser en fait toujours une idéologie en fait toujours nataliste voilà, faire des enfants. Et en ça, finalement, on voit qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de séparation entre l'État et la religion, quoi.
Alors on va y revenir parce que. Faire des enfants, on va y revenir tout à l'heure. Faire des enfants, ça dépend quels enfants on fait, hein. Dans les politiques étatiques, en tout cas. Exactement. Mais je voulais juste dire, à la fois pour les auditrices et les auditeurs, que la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, chantée par Isabelle Longnus, que je ne connaissais pas, donc la grève des mères que je connaissais comme texte, bien sûr, hein. Cette grève des mères, c'est des paroles qui ont été écrites par Montéus, qui était donc un chansonnier français né à Paris, dans le 10e, en 1872. Donc, il n'a pas connu la Commune, bien sûr. Et il est mort, toujours à Paris, dans le 15e, en 1952. Voilà. La grève des mères... Ou la grève des ventres, ce qui est un autre texte encore, on y reviendra aussi tout à l'heure. Ça me semblait important de poser la question aussi que c'est aux femmes de décider, hein, et pas à l'État. Alors, les femmes, le couple, quel que soit le couple d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas à l'État, hein. Et y en a certaines qui disaient, je crois que c'est Nelly Roussel qui disait qu'on devait pas, que l'État devait pas aller dans les alcôves, hein. Voilà. Bon, mais t'as démarré sur les chapeaux de roue et du coup, tu t'es pas présenté. Alors, j'aimerais bien que tu te présentes aussi. Qui tu es? Alors, visiblement, tu es un militant libertaire, en tout cas. On t'a rencontré sur des ZAD. Voilà. Alors, dis-nous qui tu es.
Alors, je m'appelle Nicolas Lamblay. Donc, du coup, alors, je suis issu du sud-est de la France. Donc, je suis né à Toulon. Et moi, j'ai commencé en fait mes premières années de militantisme. Alors dans la vie, sinon, je suis circassien. Voilà, je suis animateur cirque exactement. Je donne des cours de cirque aux enfants, voilà. Au niveau militantisme, moi, j'ai commencé mes premières années de militantisme à la fin des années 90. Alors j'ai 44 ans. J'ai commencé à la fin des années 90 à Toulon, à une époque où Toulon c'était municipalité Front National.
Bien sûr.
Voilà, c'était Jean-Marie Le Chevalier à l'époque qui était le maire de Toulon. J'étais assez proche du groupe de la Fédération anarchiste à l'époque de Toulon qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, NADA, dont le journal s'appelait Le Poulpe. Avec des amis, on a créé un peu différents journaux comme Soviet Libre, à l'époque qui avait été recensé dans le Monde Libertaire. Après, un journal qui s'appelait Niaproun, j'ai milité un peu aussi à la CNT. Et après, effectivement, je me suis déplacé aussi sur les ZAD. Alors, j'ai vécu 2 ans à Notre-Dame-des-Landes, donc sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Après, j'étais aussi sur la ZAD à Avignon, contre à l'époque un barreau routier qui passait dans la zone sud d'Avignon. J'ai été aussi à Calais par rapport donc aux migrants et migrantes. Donc voilà, après je me suis un peu déplacé dans différents lieux de lutte. Et donc voilà. Et puis là, au moment du Covid, on avait créé aussi une solidarité populaire à Salernes, dans le Haut-Var, pour venir en aide aux familles en situation de précarité, une aide alimentaire. Donc voilà.
Ouais. C'est important ce que tu dis là, parce que du coup, il y a une autre question qui arrive. C'est comment tu as eu envie d'écrire sur le dénatalisme. Voilà. Qu'est-ce qui a été l'étincelle qui est arrivée là et qui a fait que tu t'es mis à écrire?
Alors, il y a eu j'ai toujours trouvé que justement de parler en fait de dénatalisme, ça a toujours été un sujet tabou. Alors moi, déjà enfant, c'est vrai que dans ma famille, par exemple, c'était combien tu auras d'enfants plus tard, par exemple. C'était même pas est-ce que tu voudras des enfants, c'était combien tu voudras d'enfants plus tard, comme si c'était quelque chose en fait qui était automatique et quelque chose qui allait de soi. Alors bien sûr, j'ai une sœur. Et par rapport à ma sœur, c'était encore plus amplifié, quoi.
Bah oui, ça c'est sûr. Toute jeune femme, même quand elle a un enfant, on lui demande si elle n'aura pas un deuxième derrière. Hein. Mais de toute façon, avant même le premier enfant, c'est X fois qu'on pose la question. Alors, je ne savais pas qu'on la posait beaucoup aux garçons, mais aux filles, ça j'en suis sûre. Hein.
Ah oui. Bah, surtout aux filles, ouais. Après, il y a eu dans mon militantisme libertaire, il y avait aussi l'écologie qui a toujours une place extrêmement importante. Et je trouvais en fait qu'on parlait très peu, en fait, justement, qu'on posait très peu la réflexion justement sur le natalisme, en fait. Alors après, je me dis de suite, mon essai, c'est pas de stigmatiser les personnes qui ont des enfants, qui ont fait le choix d'avoir des enfants, pas du tout. C'est juste vraiment de poser une réflexion là-dessus et d'essayer de politiser en fait cette question-là. Ce qui me paraissait assez fou, en fait, c'était qu'à chaque fois, on posait des contre-arguments en mode « Oui, mais si le contrôle des naissances, ça amène donc en fait les misanthropes, ça amène à des positions fascistes, parce que on va argumenter le fait que ce sont les populations du Sud qui font le plus d'enfants. » Donc ça veut dire que tu vas t'en prendre aux populations du Sud, alors que pas du tout, moi c'est les populations occidentales en fait qui m'intéressent, et puis on viendra peut-être par la suite aussi de contrer justement cet argumentaire d'extrême droite en fait, hein, qui pose la culpabilisation sur les populations du Sud.
D'autant que les populations du Sud baissent leur nombre d'enfants pour des raisons à la fois économiques, mais à la fois de survie. Quand on est sur des zones où on n'a pas accès à l'eau, où on n'a pas accès à la nourriture, où les enfants meurent encore aujourd'hui, ou bien les couples font moins d'enfants. Et on l'a vu même dans le sud de l'Europe, quand on nous disait les mamas italiennes ou en Espagne, il y a des grandes familles. Et c'est plus vrai du tout, plus du tout. Alors, dans le sud de l'Europe, il y a aussi le problème de l'habitat. Hein, quand on habite dans des tout petits endroits, on réfléchit avant de faire un autre gosse, hein, ou d'en faire un même. Donc voilà, cette question de renvoyer à vouloir moins d'enfants dans les pays pauvres, c'est aussi oublier qu'il y a la guerre, la famine, des carences.
Bien sûr, alors il y a, comme tu dis, la guerre, la famine, et puis en fait, ça sert à rien aussi de parler de démographie si on ne met pas aussi un rapport derrière qui est l'impact environnemental, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité un ou une occidentale lambda qui va naître, consommera des smartphones, roulera potentiellement en voiture, prendra l'avion, avec une personne congolaise, par exemple, qui sera condamnée toute sa vie à travailler dans des mines de coltan, par exemple. C'est-à-dire que l'impact environnemental n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, il y avait des études qui avaient montré, après les chiffres, ça paraît toujours un peu arbitraire, mais c'est toujours quand même intéressant pour donner un ordre d'idée, que un enfant occidental, en fait, qui naît, c'est l'équivalent au niveau impact environnemental de 14 enfants sénégalais, par exemple. au niveau de l'impact carbone, au niveau donc voilà, donc du coup quand on met la culpabilité en fait sur des populations du Sud, bah en fait en gros une famille occidentale qui a 3 enfants, c'est comme si une famille sénégalaise avait, ben là faut faire le calcul, 14 fois 3 quoi. Donc ça n'a absolument rien à voir déjà. Donc là, c'est vraiment, mais bon, malheureusement, encore actuellement, et j'entendais encore des discours dernièrement, notamment Bruno Retailleau, qui, hein, ce ministre fasciste là qu'on a au pouvoir là, qui employait cet argument-là encore. Mmh. Bon, c'était, enfin voilà. C'est...
Alors qu'il veut renvoyer des enfants qui sont nés en France de parents étrangers, hein, voilà.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, ton livre comporte 5 parties, État et religion. On a déjà démarré là-dessus avec, en gros, la stigmatisation des femmes et la gestion des populations. La deuxième partie de ton livre, c'est sur l'écocide capitaliste. Là, tu viens de l'évoquer aussi pas mal. Mais je donne les 5 parties et puis... déjà, hein, pour qu'on comprenne de quoi est fait ton livre. Après, il y a le conditionnement social des adultes et des enfants. Mmh. Et puis, il y a évidemment ce chapitre qui nous est très cher. Petite considération sur le dénatalisme et sa récupération sur l'extrême droite, avec la bombe à retardement du natalisme occidental. Et puis, tu as évoqué dans ce chapitre-là tout le problème de la stérilisation. Hein, on y reviendra tout à l'heure, tout ça. Ouais. Et tu termines par le néo-malthusianisme et l'émancipation anarchiste. Hein.
Ouais.
Moi, il y a un chiffre qui m'a évoqué, qui m'a qui m'a étonné, c'est qu'en 2024, au niveau du Fonds des Nations Unies, 121 millions de grossesses sont non désirées, qui ont été repérées par les Nations Unies. À mon avis, il y en a beaucoup plus que ça. Mais on est déjà à 121 millions de grossesses non désirées. Mais ce qui est étonnant, c'est que 60% des femmes concernées choisissent l'IVG. Voilà, ouais. ça veut bien dire que même quand on est dans un pays où il est interdit d'avorter, les femmes continuent, depuis toujours, d'avorter avec les moyens du bord. Et on l'a bien vu avec... ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, avec la remise en cause du droit à l'avortement, alors que le Mexique a gagné ce droit à l'avortement et que les Mexicaines qui se sont toujours débrouillées pour avorter, maintenant c'est elles qui aident les États-Uniennes, enfin surtout dans les États du sud des États-Unis. Hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose de fort et donc les Nations Unies donnent ce chiffre de 121 millions de grossesses non désirées. Comment ils arrivent à calculer ça? Moi, c'est ça aussi qui m'a étonnée.
Alors comment ils arrivent? Alors ce serait assez compliqué, mais j'imagine qu'ils ont des équipes, j'imagine sur place.
Les équipes du planning familial
international, j'imagine. Après, c'est sûr que, comme tu dis, ce chiffre, de toute façon, ce chiffre, il a gonflé, quoi, hein, c'est sûr. Là, c'est vraiment un chiffre minimum, mais qui est déjà énorme.
Et donc, toujours rester dans le premier chapitre, État et religion, il y a une partie qui est aussi très intéressante. Bon, tu parles bien sûr des sorcières, mais il y a une autre partie, c'est sur la maîtrise de la population, avec, en gros, un avortement qui a été interdit ici pendant longtemps, mais les femmes ont gagné à ce qu'il soit autorisé, mais en même temps, il y avait une stérilisation dans les colonies.
Hein? Exactement. Stérilisation forcée dans les colonies. Ce qui montre bien, justement... alors, c'est... à cette époque-là, bon ben c'est vrai que les mouvements féministes plutôt blanches en fait hein, en Europe, en France en tout cas, ont été ignorés aussi et ignorés en fait ce qui se passait aux Antilles. Mais d'où l'importance aussi justement de toujours ramener aussi à la classe et à la couleur de peau en fait.
Oui, oui.
Les conditions ne sont pas les mêmes de toute façon des exploités suivant la classe sociale et suivant la race à laquelle on est quoi. Hein.
Ouais.
Je veux dire voilà.
Sous Debré, on stérilisait dans les colonies, mais on envoyait aussi des enfants des colonies en Aveyron, par exemple, puisque on
oui,
savait
exactement.
Qu'il y avait une dépopulation en Aveyron et on a eu des enfants qu'on a arrachés de leur famille sans rien leur dire et ça a fait des drames.
Aux États-Unis, il y a eu des mouvements un peu semblables aussi, d'ailleurs. Hein. Par exemple, dans les années 60-70, où il y a eu des stérilisations forcées aussi aux États-Unis de femmes afro-américaines.
Mmh.
Et généralement, elles ont créé leur propre organisation en fait féministe noire. Et parce que, elles n'arrivaient pas vraiment à avoir des relations avec les mouvements féministes blanches. Aux États-Unis, parce que c'était pas les mêmes problématiques aussi. Et
c'est ce qui explique l'émergence du black féminisme. Hein,
exactement. Voilà, exactement. Ouais. Mm. Alors, c'est vrai qu'il y a un livre qui en parle très bien, c'est Françoise Vergès qui a écrit La Grève des Ventres, sur ce qui se passait aux Antilles, où là, elle développe vachement justement ce qui se passait là-bas, qui est très intéressant. Oui,
oui, oui. Alors, on va écouter maintenant La Franche, Bye Bye Baby, et puis je vais expliquer pourquoi j'ai fait ce choix musical ensuite.
Ok.
Bye bye baby, bye, you have to go. Sweet dreams and the night and
Là, on vient d'écouter cet artiste qui s'appelle La Frange et qui vient de sortir ce titre Bye Bye Baby. Évidemment, c'est sur ce sujet délicat qu'est l'avortement. Et donc, dans cette balade, on va dire folk, avec piano-voix, hein, c'est tout ce qu'il y a, minimaliste, on peut dire même, ça explore la douleur, la perte et la solitude. Tout en offrant une vision poignante sur le poids des choix difficiles et puis des cicatrices invisibles que ça laisse, bien sûr. Alors, La Franche sera en relais party aux Trois Baudets le 21 février et Eva et Vita qui suit cet artiste nous annonce aussi un festival Amapola les 4 et 5 juillet 2025 au Bois des Charmes à Gazeran dans le 78. Voilà, c'était pour le petit coup des amis. On revient avec Nicolas Lamblet. Toujours pour un dénatalisme libertaire, ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste aux éditions du Monde Libertaire. Et nous sommes toujours dans l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire. Alors le deuxième chapitre, c'est sur l'écocide capitaliste. Et là, tu évoques un terme de surpopulation. Hein, avec une croissance exponentielle de la population. Je donne un chiffre pour les auditrices et auditeurs. On était 1 milliard d'individus en 1800. On sera 10 milliards en 2050, c'est-à-dire 10 fois plus sur une Terre qui est toujours la même et que par contre, on pollue de plus en plus, avec des risques sanitaires importants. Tu peux revenir sur tout cela ?
Sur l'évolution démographique, en fait ?
Oui, et puis sur les risques sanitaires aussi.
Oui. Alors, la démographie, si on part, par exemple, de très loin, pour donner un ordre d'idée, au néolithique, par exemple, parce que c'est à partir vraiment du néolithique qu'il y a eu un accroissement, en fait, de la démographie. Mais donc le néolithique, 9000 ans à peu près avant notre ère, et la population doublée à peu près tous les 1600 ans, quoi. La population mondiale, hein, je parle, donc doublée à peu près tous les 1600 ans. Et du coup, en fait, en 1800, donc la population donc augmentée, je dirais progressivement, mais en 1800, là, on atteint 1 milliard, et c'est vraiment à partir en fait des révolutions industrielles.
Oui.
Que là, en fait, la population va véritablement augmenter. En un siècle, en fait, la population va doubler. Donc, en 1900, on est pratiquement à 2 milliards. Et dans les années 50, on est à peu près, presque à peu près, 2 milliards et demi. Et en 50 ans, en fait, la population va carrément doubler, quoi, puisque en 2000, on est à 6 milliards. Donc c'est vrai qu'il y a une croissance comme ça exponentielle en fait de la démographie, de la population, mais donc qui est véritablement à partir des révolutions industrielles, donc à partir du 19e siècle. Donc là maintenant on est un peu plus de 8 milliards. Alors les prévisions effectivement comme tu l'as dit, voilà 2050, 2100. Voilà, on va arriver en 2100 à peu près vers les 11, enfin ça c'est les études, hein, vers presque 12 milliards en fait d'habitants, quoi. Alors, après la surpopulation, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, ça va toujours dépendre aussi de l'impact environnemental. Le problème donc c'est effectivement qu'il y a en parallèle une croissance exponentielle, une croissance des matières premières. Donc, bien sûr, là, je parle des pays occidentaux, hein, des populations occidentales, et aussi, en fait, une territorialisation, en fait, au niveau de la population qui pose problème, c'est-à-dire qu'il y a un étalement urbain de plus en plus important. Par exemple, depuis 2008, et ça, c'est une première historique, la majorité de la population mondiale vit maintenant dans les villes et non plus en campagne, alors que jusqu'en 2008, en fait, la population mondiale vivait majoritairement plutôt en campagne. Donc il y a étalement urbain, donc les villes en fait qui s'agrandissent, et on le voit d'ailleurs autour de chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une bétonisation de plus en plus énorme en fait des espaces, avec derrière en plus une rapacité, je dirais, du privé, notamment, qui vont privatiser en fait certaines denrées essentielles, notamment comme l'eau.
Oui.
D'ailleurs, certains spécialistes estiment que l'eau va même dépasser le pétrole en termes de denrées rares, c'est-à-dire que bientôt on parlera même de l'or bleu, oui, et non plus de l'or noir. On a plus de 2 milliards en fait d'individus sur la planète qui n'ont plus, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc derrière, en fait, ça crée aussi des risques des maladies en fait qui se développent, dû justement au fait que l'eau soit pas potable et à donc des risques sanitaires, des maladies comme par exemple le choléra, la dysenterie, des maladies comme ça qui reviennent. qui se développent. Et d'ailleurs, même en France, je sais pas si t'as vu, mais il y a des articles, en fait, qui sont parus dernièrement, qui montraient qu'il y avait des maladies qui émergeaient de nouveau en France, dues à la précarité, et notamment à un mauvais accès, justement, à l'alimentaire, des maladies qui avaient disparu, en fait. Donc voilà, on a donc une privatisation en fait de l'espace et de denrées, donc comme l'eau. On le voit avec la construction de plus en plus importante de barrages et un accès de plus en plus difficile en fait à une eau potable. Et le problème en fait derrière aussi, ben c'est qu'on a donc la population augmente, on a une raréfaction de plus en plus des matières premières, puisque bon, on vit dans un monde fini et que les matières premières sont quand même limitées. Et à partir de là, c'est pour ça que dans le livre je fais un chapitre sur ce qu'un historien appelle l'exterminisme.
Oui.
Un historien du nom de Thompson, à partir des années 90, qui a justement développé en fait ce concept-là. Alors l'exterminisme, ça paraît énorme de suite dans l'imaginaire. On imagine l'extermination de milliards de personnes, tout ça. Alors en fait, ce terme-là, il a créé pourquoi ? Bah pour montrer que il y a des politiques qui sont mises en place qui font clairement un tri en fait au niveau des populations. Par exemple, mais un tri conscient, c'est-à-dire que consciemment, ils vont mener à la mort en fait les franges les plus pauvres en fait de la population. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, les politiques migratoires qui sont mises en place par l'Union européenne, amènent à ce qu'il y ait des milliers de migrants et migrantes qui meurent en Méditerranée tous les ans. Alors Thompson, par exemple, prenait l'exemple notamment de l'ouragan Katrina, où les politiques mises en place pour le sauvetage en fait des personnes, c'était d'abord sauver en fait les franges de la population les plus riches. Et on laissait tomber, en fait, les franges les plus pauvres. Et à l'heure actuelle, en plus, avec le développement, justement, et l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, au niveau mondial, ça va encore plus, justement, se développer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des politiques de plus en plus excluantes par rapport aux franges les plus pauvres et des politiques carrément criminelles, en fait.
Ouais. Et puis il y a les guerres aussi, non ? Les guerres de frontières, en cas par exemple de raréfaction de certaines matières, hein.
Ah bah complètement, ouais, non mais c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, la raréfaction des matières premières fait que de toute façon, les États et notamment, on parle surtout d'entreprises aussi, hein. Parce que maintenant on voit que de plus en plus ce sont les entreprises qui prennent le contrôle aussi sur les États, donc des lobbies des multinationales qui effectivement vont se battre en fait pour des ressources à travers le monde. Même là, ce qui se passe par exemple en ce moment, le nettoyage ethnique qu'il y a dans la bande de Gaza, quand on regarde l'occupation israélienne dans la bande de Gaza, c'est quoi ? En général, c'est des occupations qui ont lieu autour des points d'eau potable, en fait. Donc effectivement, voilà, ces conflits, en fait, sont voués, malheureusement, à se développer de plus en plus. Et en plus, on voit derrière toute une propagande dans les États occidentaux, toute une propagande médiatique visant à diviser, en fait, le prolétariat. Visant à diviser en fait les franges les plus pauvres de la population, en stigmatisant les migrants et les migrantes, avec en parallèle, ça c'est complètement fou, une envolée totale des inégalités. Mais bien sûr, il vaut mieux taper en fait sur son voisin ou sa voisine au RSA ou chômeur qu'autre chose, quoi. Et donc derrière, accompagné d'un discours guerrier. Rien que comme la fameuse phrase de Macron, réarmement démographique, c'est pas anodin non plus, quoi. C'est-à-dire qu'il utilise un langage volontairement guerrier, militaire, pour parler en fait justement de démographie.
Mais on a l'impression, quand on a entendu cette phrase-là, que c'était qu'on revenait extrêmement en arrière. y compris du temps de l'URSS, hein, où, par exemple, on interdisait l'avortement et la contraception dans toute la frange de l'URSS, alors que ça avait été acquis dans les premières années de la Révolution russe. Hein, mais après, ça a été interdit parce qu'il fallait faire le plus de révolutionnaires possible pour la guerre, pour protéger l'URSS, mais aussi pour conquérir. Hein, et on n'a pas changé. C'était URSS, il y avait le mot socialiste dedans. Aujourd'hui, on a Poutine qui n'a plus rien de quoi que ce soit. Soit du socialisme, hein, mais tous les États sont à peu près dans le même bateau, quoi, hein, à garantir leurs frontières, à la fois pour les ressources, mais aussi avoir le plus de monde possible pour pouvoir justement garantir ses frontières, quoi, finalement.
Mais comme l'écrivaient d'ailleurs les néo-malthusiens, néo-malthusiennes, chers à canon et chers à patron, quoi.
Voilà. Alors du coup, on va écouter là Michel Bernard, fille d'ouvrier.
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes ça vient au monde, cher à guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, chair à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, chair à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, chair à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, pas des lieux gabales, des froids saisis, quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à macar.
Voilà une belle interprétation de Fille d'ouvrier par Michel Bernard. On est toujours à l'écoute de l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire. Cette chanson, c'est un texte de Jules Jouy qui a été écrit en 1887. Voilà, et je trouvais que ça abordait bien à la fois le capitalisme et puis le conditionnement social des enfants et des adultes qui correspond à ton troisième chapitre.
Oui, oui, oui.
Voilà. Et en particulier le dressage des enfants, hein. On dresse les enfants, que ce soit à l'école et puis après, pour qu'ils puissent après aller à l'usine ou dans l'emploi et qu'ils se tiennent à carreau, quoi, hein.
Oui, complètement, ouais. Puis, comme tu l'as dit, en fait, de toute façon, bon, l'école, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus qui montrent que l'école, de toute façon, c'est l'apprentissage, en fait, du capitalisme, en fait, hein, et de toutes les et de l'apprentissage aussi du genre, en fait. C'est-à-dire que les petites filles et les petits garçons ne vont pas évoluer de la même manière non plus à l'école. Dans le livre, par exemple, je montre l'exemple rien qu'au niveau des jeux, par exemple, dans les cours de récréation. Mon rappel, par exemple, petit, les filles qui couraient dans la cour, on les engueulait.
Oui, et les filles sont en bordure de cour et les garçons jouent au foot au milieu de la cour.
C'est-à-dire déjà territorialement, en fait, dans la cour de récréation, on a les petits garçons qui occupent la majorité de l'espace, tandis que les filles, en fait, sont confinées dans des espaces beaucoup plus réduits. Je me rappelle enfant, et puis et ça n'a pas trop changé, puisque moi j'interviens par mon métier justement aussi dans les écoles, et je vois dans les cours de récréation, c'est toujours la même disposition en fait. On voit des filles qui courent, qui vont se faire engueuler. Donc il y a ce conditionnement-là déjà à l'école, où les voies sont déjà tracées. Et puis, les voies sont tracées aussi, souvent dans les familles aussi, au niveau de l'éducation, et notamment au niveau des jouets, quoi. Au niveau des centres d'intérêt, comme je l'écris dans le livre, les filles qui vont évoluer dans un univers plutôt monochrome, rose, la petite poupée, les garçons qui seront beaucoup plus dans des univers de voitures.
Et polychrome.
Exactement, ouais. C'est ça. D'ailleurs, quand on va dans les magasins de jouets pour enfants, on a souvent encore les rayons roses pour les filles, les rayons bleus pour les garçons, avec des jouets complètement différents. Et d'ailleurs, ce que j'écris aussi dans le livre, c'est que l'enfant est aussi une manne, les enfants sont une manne financière, en fait.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a un marché du jouet qui est énorme.
Alors, chapitre, tu reparles de la valeur famille, et avec tous ces mouvements d'extrême droite qui luttent contre le droit à l'avortement. Alors moi, je précise toujours que c'est un droit et non pas c'est pas l'avortement en tant que tel, mais c'est un droit, qu'on use ou qu'on n'use pas, mais en tout cas, c'est un droit. Et nous, en France, par exemple, c'est dans les années 90 qu'on a eu des commandos anti-IVG, alors qu'aux États-Unis, ça n'a jamais arrêté, quoi. Et les commandos, aux États-Unis, ils pouvaient tuer les médecins et les personnels dans les cliniques. Donc, on a ce mouvement d'extrême droite contre l'avortement, alors que quand ils parlent de famille, mais c'est la famille qui a du fric, parce que les familles qui sont pauvres ou qui sont dans les banlieues, ça ne les intéresse pas plus que ça.
Absolument, ouais, bien sûr. Ah oui, complètement. De toute façon, ils ont vraiment, l'extrême droite a une représentation, un imaginaire, une représentation complètement traditionnelle de la famille, et comme tu dis, d'une certaine classe sociale aussi. Ça c'est sûr.
Et par rapport à cette extrême droite qui n'a jamais varié, puisque sous Pétain c'était exactement la même chose, il y a un mouvement Child Free qui commence à être présent, et qui fait en sorte de dire: nous aurons les enfants que nous voulons, et quand on le veut, et on peut très bien vivre sans enfants du tout.
C'est le mouvement Child Free, en fait. Il est né effectivement aux États-Unis, donc dans les années 70-80, donc ça remonte un petit peu. Il est devenu de plus en plus important. Bon, après, il faut pas se leurrer. C'est toujours une minorité de la population quand même qui a une critique antinataliste. Mais le mouvement Child Free, en fait, ce qui est bien quand même, c'est que c'est un mouvement qui s'est quand même pas mal développé. On trouve pas mal de jeunes à l'heure actuelle, par exemple. Et qui a intégré aussi les mouvements, pas mal d'organisations écolo en fait. Et pas nécessairement non plus des organisations spécialement révolutionnaires, mais même des organisations écolo. Enfin, comme quoi cette thématique-là antinataliste, en fait, elle se développe quand même et elle a un peu plus d'écho qu'il y a 50, 60 ans en arrière, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez vu, je l'ai pas mis dans le livre, mais j'aurais pu, mais c'était sur une chaîne. Alors, je crois que c'était la journaliste Apolline de Malherbe qui se retrouvait face à une militante. Écolo, mince, comment il s'appelle ce livre, cette organisation, je crois que c'est Rébellion, mince, comment c'est déjà ce mouvement. Enfin bref, un mouvement écolo et qui, cette militante lui disait Extinction Rébellion. Et cette militante, en fait, elle lui disait qu'elle ne voulait pas d'enfant, en fait. Et là, t'as la journaliste en face qui commence à lui dire « Mais comment ça, vous ne voulez pas d'enfants ? Mais en fait, vous êtes misanthrope, vous aimez pas, en fait, vous êtes contre l'espèce humaine, machin. » Et puis elle, donc, un peu harcelée comme ça, enfin voilà, qui essaie de se défendre et qui donnait un bon argumentaire, justement, tout ce dont on parle depuis un peu tout à l'heure. Et c'était une jeune femme qui avait, je sais pas, 25 ans. Et je l'ai vu dans d'autres interviews où elle expliquait justement que même dans Extinction Rébellion, par exemple, il y avait un mouvement de child freak qui était assez important. Alors après, c'est très hétérogène en fait. Il y a plein de mouvements différents. Il y a des mouvements aussi, par exemple, qui vont revendiquer le fait de ne pas avoir d'enfants, mais plus avec des visées un peu libérales, entre guillemets, derrière. C'est-à-dire, moi, je veux monter mon entreprise. Je veux évoluer dans la vie et je veux pas avoir d'enfants, quoi. Il n'y a pas du tout de visée révolutionnaire ou quoi que ce soit derrière. Et puis il y a aussi des mouvements d'extrême droite aussi qui essaient de porter une critique antinataliste, mais bien sûr cette critique là en fait c'est contre les populations du Sud en fait. Voilà, aux États-Unis notamment il y a un mouvement assez important qui s'appelle FAIR. C'est la FAIR, je m'en rappelle plus exactement, c'est pour la réforme de l'immigration américaine, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, ils ont des textes très antinatalistes, mais en s'en prenant toujours aux mêmes personnes, quoi. C'est-à-dire aux latinos, aux noirs, parce que pour eux, le problème nataliste, ça vient des populations du Sud, mais pas des populations occidentales ou américaines, non, pas du tout, quoi. Donc il y a aussi exactement comme on va trouver pour la décroissance aussi l'extrême droite qui va récupérer des thématiques écolo comme la décroissance en retournant ça complètement toujours contre les mêmes personnes quoi.
Alors dans ce chapitre tu parles de plein de choses, on va pas avoir le temps de tout évoquer hein, mais par exemple le mouvement des stérilisés de Bordeaux qu'on connaît assez bien qui est la suite de tout ce mouvement néo-malthusien hein, ce sont les mêmes donc j'incite les auditrices et les auditeurs à revoir ça hein, cette histoire des stérilisés de Bordeaux, mais ça veut dire qu'aujourd'hui la stérilisation, la demande de stérilisation, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est quand même un parcours du combattant.
Complètement, ouais. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que bon, il n'y a pas de droit à la parentalité, par exemple. Il n'y a pas de diplôme pour être parent. Mais par contre, si on ne veut pas d'enfant, là, par contre, effectivement, généralement, il faut passer devant un psychologue, il faut remplir des dossiers, ça prend énormément de temps. Moi, je m'étais intéressé, parce qu'à une époque, je m'intéressais à la vasectomie. Et c'était, donc j'avais regardé les dossiers, c'était impressionnant, quoi. Hein, c'était vraiment, comme tu dis, le parcours du combattant, quoi. Donc, il y a toujours cette stigmatisation que si, justement, on veut être stérilisé ou qu'on remet en cause, en fait, l'idéologie nataliste, parce que c'est une idéologie, en fait, hein, l'idéologie nataliste, on est suspecté d'être anormal, d'avoir des problèmes ou d'être psychologiquement instable. Donc, c'est vrai que, c'est assez impressionnant, quoi.
Alors, La dernière partie de ton livre, c'est néo-malthusianisme et émancipation anarchiste. Donc, ouais. Tu rappelles tout ce mouvement qui a été porté par des militants libertaires à la fin du 19e siècle et début du 20e, avec Paul Robin en particulier.
Ouais.
Tu parles de Marie Huot aussi, de Nelly Roussel, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que au travers de ce que tu écris, bon, on retrouve évidemment la thématique de chair à travail et chair à canon, hein, bien sûr. Mais on retrouve, et c'est pour ça que je reviens sur ce terme-là tout à l'heure, quand on écoutait la grève des mères, on arrive là à la grève des ventres grève au même sens que les grèves ouvrières. Voilà, il y a un parallèle. Et ça, c'est intéressant, ça.
Complètement, ouais. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que finalement, comme je l'écris dans le bouquin, c'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant d'intersectionnalité, qui est le croisement justement de systèmes oppressifs en fait au niveau d'un individu. Et puis les néo-malthusiens avaient fait un peu la même chose en fait déjà. À la fin du 19e siècle, où ils croisaient justement différents rapports en fait justement d'oppression. Et les mettait en lien. Ouais. Et effectivement, par exemple, là, tu parlais de Marie Huot. Marie Huot, c'était donc, elle était en même temps féministe, elle était en même temps végétarienne, c'est-à-dire qu'elle luttait pour les droits des animaux. Elle était aussi néo-malthusienne. Et en fait, elle mettait en lien, elle a écrit un essai qui s'appelle Le mal de vivre, où dedans, en fait, elle met en lien, en fait, toutes ces thématiques, et notamment, elle explique que finalement, que la condition en fait des animaux préfigure aussi la condition des humains quoi. C'est-à-dire comment on traite les animaux, et bien en fait il y a un parallèle qui peut être fait aussi avec comment on traite en fait les humains.
Cette notion du vivant qui est en interdépendance,
complètement,
et non pas deux vivants qui s'entrechoquent, hein, mais c'est bien...
Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux luttes ouvrières, syndicales, on trouve ça aussi chez quelqu'un comme Georges Yvetot, par exemple, qui était donc ouvrier, syndicaliste, et qui en même temps faisait le lien aussi avec le néo-malthusianisme, donc éviter de produire de la chair à canon, de la chair à patron. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais qui est quand même assez, assez important aussi, je trouve, et qui est assez symbolique, c'est de savoir que les allocations familiales, elles ont été créées juste à la sortie de la Première Guerre mondiale. Et qu'elles ont été créées justement parce que devant la saignée de la Première Guerre mondiale, il fallait repeupler en fait les usines, et ce sont les patrons en fait qui ont demandé, qui ont diffusé en fait cette idée que de donner des allocations aux familles ouvrières qui auraient des enfants. Là on est vraiment, tout ce que disaient les néo-malthusiens et néo-malthusiennes fin 19e, on le retrouve là en fait,
Et avec ces deux lois de 1920 et de 1923 qui interdisaient l'information et la pratique de la contraception et de l'avortement, hein, les deux niveaux. Et qui, en 1942, ça a été criminalisé.
On a même eu une femme qui s'était faite, 1943, Marie-Louise Giraud, qui s'était faite exécuter en tant qu'avorteuse.
Et il y a eu un très beau film, d'ailleurs, joué par Isabelle Huppert. sur ce cas-là. Je reviens sur, par exemple, le couple Eugène et Jeanne Imbert, hein, qui ont fait de la prison, hein, à plusieurs reprises. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître Jeanne Imbert, parce que comme elle est morte en 1986, je militais déjà, et j'ai eu l'occasion au moins une fois de la voir.
Voilà. D'accord.
Et c'était ce couple-là... lui était plus âgé qu'elle, hein, il avait 20 ans de plus, mais ce couple-là reste dans la mémoire d'historiens comme Ronsin, que tu as cité d'ailleurs dans ton livre, hein, parce que c'était vraiment des militants qui, pour la cause, et ils n'en avaient rien à faire d'aller en prison. Hein.
Voilà. Ouais, complètement. Et c'est vrai que, alors, ce livre, je le finis justement par le néo-malthusianisme, mais parce qu'en fait, quand on lit, en fait, que ce soit Jeanne Imbert, même les mémoires de Jeanne Imbert, quand on lit, en fait, les néo-malthusiens, néo-malthusiennes de cette époque-là, enfin, en fait, c'est hyper d'actualité, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et comme je l'écris, ils sont beaucoup plus d'actualité que certains pseudo-intellectuels qu'on a sur les chaînes de télé et qui racontent n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est véritablement impressionnant comme c'était d'actualité et beaucoup avant-gardiste en fait. Hein.
Oui, et je trouve bien que tu évoques le néo-malthusianisme parce que ce terme a toujours eu du mal à s'imposer à cause du malthusianisme, hein, en particulier. Il a fallu, là j'étais à Toulouse la semaine dernière, il a fallu que je réexplique la différence entre Malthus et le néo-malthusianisme. J'étais dans un milieu libertaire, donc on voit bien que c'est important de dire que les néo-malthusiens n'étaient pas des gens qui étaient contre les enfants des pauvres. Ils étaient pour une génération consciente. Hein, c'était le terme de conscience qui était le plus important.
C'est pour ça, d'ailleurs, que le néo-malthusianisme est allié aussi avec un courant dans le mouvement libertaire qui est très important, qui est l'éducationnisme, en fait.
Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on retrouve Émilie Lamotte aussi dans ce que tu écris, hein, bien sûr.
Oui, complètement, oui.
Voilà, bon, écoute, on va terminer avec cette idée que tu t'évoques vraiment à la fin. Tout est lié, grève des ventes, antimilitarisme, féminisme, hein, et puis on est responsable de nos corps, de nos choix, de nos vies. Hein.
Exactement, et surtout dans l'époque dans laquelle on vit, c'est bien de le rappeler en fait.
Oui. Et écoute, je te remercie.
Merci à toi.
Je rappelle le titre pour un dénatalisme libertaire de Nicolas Lamblet. Ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste aux éditions du Monde Libertaire. Et le livre est à 10 euros. Vraiment. Même pour les petites bourses, c'est possible. Et pour ceux qui ne connaissent pas le néo-malthusianisme en particulier, plutôt que de rentrer dans des livres plus conséquents, commencez par lire le livre de Nicolas Lamblet et vous aurez une vision à la fois anticapitaliste et féministe. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter à ça.
Non, très bien, très très bonne conclusion. encore un gros merci de m'avoir invité.
Oui, merci d'avoir été disponible. Et puis c'était une conversation, je trouve, qui était tout à fait à propos dans la période. Et puis évidemment dans l'émission Femmes Libres, bien évidemment, c'était aussi notre credo, quoi. Merci à toi.
Merci à toi, merci.
Et on termine par Anne Sylvestre. Non, tu n'as pas de nom.
Non, non. tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme? Qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise. Et d'instinct, je te résiste. Depuis si longtemps, j'existe. Depuis si longtemps, je t'aime. Mais je te veux sans problème. Aujourd'hui, je te refuse. Qui sont-ils, ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance. Ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre. C'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces. Mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Toujours à l'antenne Radio Libertaire dans l'émission Femmes Libres, eh bien nous passons au quatrième temps de notre émission avec des informations, des communiqués, des rendez-vous.
Mercredi 26 février, de 19h à 21h, à Montreuil, au café-librairie Michel Firk, 9 rue François Dauberg. On a une rencontre avec Jules Falquet, qui présentera son livre « La combinatoire straight, colonialisme, violence sexuelle et bâtard du capital ». L'entrée est libre.
Voilà, et nous accueillerons Jules Falquet, je crois, début avril, voilà, pour qu'elle nous présente son livre. Alors, le vendredi 7 mars, à l'Institut Émilie du Châtelet, dans le cadre de Sexe et Genre, pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales, Enora Perronneau-Saint-James, archiviste, paléographe, responsable de collecte et de classement aux archives de Paris, évoquera les crimes sexuels et sociétés à la fin de l'Ancien Régime, pour une nouvelle histoire du viol. La question des violences sexuelles ramène inévitablement vers l'actualité ces débats. En étudiant une trentaine d'affaires jugées au XVIIIe siècle, on s'attaque ici à un sujet sensible mais peu exploré par l'historiographie et qui véhicule encore de nombreuses idées reçues. L'histoire du viol est plus qu'un chapitre de l'histoire du droit et de la justice. À la croisée de plusieurs champs scientifiques, elle touche également l'histoire sociale et culturelle. La famille, le couple, l'enfance, la médecine, la violence, autant de domaines en plein revival qui émergent dans les anciens procès pour crimes sexuels. Et ces thèmes, ancrés dans la vie quotidienne de l'ancien régime, en redoublent d'autres plus intangibles. L'image du corps, la vie privée, la sexualité ou les émotions. Ça se passera donc au CNAM le 7 mars de 14h à 16h30, amphithéâtre Fabry Perrault, 292 rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement, accès 4, niveau 0.
Alors jusqu'au 23 février, on a une compagnie qui présente une création. Donc ce sont les jeudis et samedis à 19h et les dimanches à 15h, 18 rue de l'Orillon, Paris 11e. La compagnie s'appelle Un pas de côté et elle présente donc le spectacle qu'elle a joué à Montreuil il y a quelques mois qui s'appelle La jeunesse de Rirette Maître Jean. Et donc ce lieu, c'est un nouveau lieu féministe, le local des autrices, appelé En dehors. Voilà, jusqu'au 23 février.
Voilà, et ça fait un lien avec Rirette Maître Jean, qui fait partie des En dehors. Donc le spectacle qui parle des En dehors se passe dans un lieu qui s'appelle les En dehors.
En dehors.
En dehors, ouais.
Jusqu'au 23 février, on a aussi le dimanche à 18h, toujours dans ce local des autrices, hein, 18 rue de l'Orillon, Mal élevé, qui est un spectacle dans la lignée du mouvement MeToo par le collectif En finir.
Voilà, et puis on a des informations de Pakshan Azizi, travailleuse humanitaire kurde qui a été enlevée par des agents du renseignement iranien. Torturée et maintenue à l'isolement pendant 5 mois, elle a réussi à faire passer une lettre hors de prison pour décrire ses interrogatoires. Une suite de simulacres d'exécution à répétition, pendue, enterrée vivante. Aujourd'hui, après un procès truqué, elle est condamnée à mort. Il n'est pas trop tard pour la sauver. Elle a consacré sa vie à aider des femmes et des enfants dans des camps de réfugiés en Syrie. Un travail humanitaire et pacifique pour défendre les droits humains. Et maintenant, elle risque la pendaison. Des militants des droits humains demandent au monde entier de se mobiliser pour faire libérer cette femme, cette militante, Pakshan Azizi. Alors, vous pouvez signer maintenant l'appel au chef du système judiciaire iranien, parce que quand l'appel aura pris de l'ampleur, ça sera l'occasion de faire pression sur le régime iranien par des coups médiatiques ciblés afin de lui montrer que la planète a les yeux rivés sur Téhéran. Et vous retrouvez cet appel sur Avaz. Et vous choisissez ensuite la campagne pour Pakshan
Azizi. Alors, on a aussi une ancienne opposante emblématique au régime de Zine El Abidine Ben Ali, la présidente de l'instance Vérité et Dignité, IVD, durant la période post-révolutionnaire, chargée de mettre en place un processus de justice transitionnelle. C'est une personnalité reconnue en Tunisie, à l'international. Et Siem Ben Sedrine est actuellement en prison depuis le 1er août 2024, sans aucun motif sérieux d'inculpation. Le 14 janvier dernier, date anniversaire de la révolution de 2011. Elle a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention arbitraire dans des conditions que vous pouvez imaginer. Devant la rapide détérioration de son état de santé, les autorités l'ont transférée le 25 janvier, à l'hôpital de la Rapta en service de réanimation. Les visites, famille, époux, enfants, c'est interdit. Le pouvoir continue de s'acharner contre elle. Et en effet, le 28 janvier dernier, un juge d'instruction du pôle économique et financier a décidé de prolonger sa détention sans même l'en informer. Aujourd'hui, CM Ben Sedrine est en danger. Nous, les amis de la Tunisie, épris de justice et de liberté, tenons à lui manifester publiquement notre solidarité et soutien en réclamant aux autorités tunisiennes sa libération sans délai. Et là aussi, vous pouvez aller sur change.org et la militante tunisienne des droits humains, Siem Ben Sedrine, est en danger. Et vous pourrez signer si vous le souhaitez.
Tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des giflées, tu pensais je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs, de ta mère aussi d'ailleurs quand elle était en pleurs. Toi tu as aimé un homme passionnément, mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Toi tu voulais être musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit, je suis désolée, mais à de ces malheureux on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oublié, mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter, un air que la nuit en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine. Toi tu es née dans le corps d'un homme, mais depuis toujours tu sens que c'est un décorum. Toi tu as décidé que pour être libre, tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans la nuit s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine.
D'écouter Clara Isée, souveraine. Alors, on termine avec les informations concernant les éditions du Monde Libertaire. Et je rappelle que les 8 dernières publications Ce sont tous des livres à 10 euros chacun. Le dernier en date de février 2025, c'est « Abolir l'armée ». Et c'est un ouvrage émanant de l'UPF, l'Union pacifiste de France. Celui qui est sorti en janvier 2025, « Terre sainte, guerre sans fin », la création de l'État d'Israël en Palestine, sionisme et utopie. Et c'est le réseau Macno qui a rédigé cet ouvrage. En décembre 2024, c'est l'éducation intégrale de Paul Robin qui est paru. Ce sont des textes sélectionnés, expliqués et commentés par Hugues Lenoir. En novembre 2024, trois livres en novembre 2024, « Guerre à la guerre » de Pierre Sommermeyer, « Émilie Lamotte, vivre en anarchiste » de Marie-Pierre Tardif et Sylvain Vagnon, et puis « La guerre contre les femmes, les femmes contre la guerre » d'Hélène Hernandez. Et en septembre, pour un dénatalisme libertaire, ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste, par Nicolas Lamblé, qui était notre invité de ce soir. Et en mai 2024, c'était Israël-Palestine 2003-2024, chronique libertaire, une guerre qui n'en finit pas, de Pierre Sommermeyer, qui venait de paraître. Voilà, donc huit publications des éditions du Monde Libertaire, et je reprécise que c'est tous des livres à 10 euros. Alors, le temps des cerises, c'est pour passer à la librairie Publico, la librairie qui est au 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Oberkampf, Fille du Calvaire. La librairie est ouverte tous les jours, sauf le lundi. Elle est ouverte donc tous les jours de 13h à 19h30, du mardi au dimanche, et le samedi à partir de 10h. Des animations, mercredi 19 février, c'était ce soir à 20h, le ciné commune, projection débat, l'arbre immortel, la résistance de Yerka, de Kazim Kizil, et c'est présenté par Sybille Sekmen. Samedi prochain, le 22 février à 16h, carnet de guerre, la défaite du colonialisme russe serait la victoire de tous les peuples. C'est une rencontre débat à l'initiative du groupe Gaston Leval de la Fédération anarchiste, et c'est les carnets de guerre, c'est de Jean-Marc Royer. Le jeudi 27 février à 19h, c'est une rencontre autour de Jean Mecker, qui s'appelle aussi Jean Amila, mais là l'ouvrage qui vient d'être réédité, c'est sous le nom de Jean Mecker. Donc une rencontre au travers de cette réédition illustrée de Le Boucher des Hurlus de Jean Mecker aux éditions Ronce. Et le vendredi 28 février à 19h, livre Segui, petit manuel de lutte contre l'antisémitisme de Jonas Pardo et Samuel Delors. C'est une rencontre débat avec les auteurs. Donc quatre soirées à venir. Le 19, c'était ce soir, mais les trois autres, 22 février, 27 février et 28 février, en sachant que quand c'est le samedi, c'est à 16h, et sinon, en semaine, c'est toujours à 19h. La prochaine émission, ça sera le mercredi 26 février, et on aura une tribune libre avec Laurence et Marie-Jo qui nous parleront de l'édition 2025 des Noyonnelles. Alors, les Noyonnelles, c'est un festival qui a lieu dans la ville de Noyon, dans les Hauts-de-France, et avec un certain nombre de propositions cinématographiques, théâtrales, des discussions, des ateliers, voilà, qui pendant une dizaine de jours animent autour du 8 mars féministe. Et puis notre invité sera Jean-Philippe Martin, paysanne, histoire de la cause des femmes dans le monde agricole des années 1960 à nos jours. Et c'est un livre qui est paru aux éditions de l'Atelier tout récemment. Ça rappelle que dans les années 1960-1970, les femmes ont revendiqué de nouveaux droits et les paysannes n'ont jamais été à l'écart de ces combats. Invisibilisées et sans droits sociaux, elles ont lutté dans leur foyer et dans les syndicats, remettant en cause la division sexuée du travail agricole, militant et domestique. Donc on a là une thématique que nous n'avions pas encore traitée dans l'émission Femmes Libres, mais une thématique qui, bien évidemment, se retrouve dans le champ féministe grâce à ces paysannes qui, petit à petit, et on le verra avec l'auteur, petit à petit vont s'affirmer féministes, et en particulier dans la Confédération paysanne, alors que dans les autres organisations plus importantes, eh bien, le féminisme a fait son chemin, mais plus lentement. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et féministe tant qu'il le faudra. Nous terminons avec Estelle et Sylvestre, l'hymne des femmes. Estelle qui chante, Sylvestre qui a fait la musique et qui nous ont offert tous les deux cet hymne des femmes dans cette interprétation particulière. Bonsoir.
Et détruisons nos cages. Debout. 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 Debout.
jeunesse. Elle est usée, simplement.